Chapitre 11. Revanche de la police. Le chemin le plus court pour aller de Cinq-Cygnes au pavillon de Michu était celui qui menait de ce village à la ferme de Bellache et qui aboutissait au rond-point où les espions avaient apparu la veille à Michu. Aussi le gendarme qui conduisait Corentin suivit-il cette route que le brigadier Darcy avait prise. Tout en allant, l'agent cherchait les moyens par lesquels un brigadier avait pu être désarçonné. Il se gourmandait de n'avoir envoyé qu'un seul homme sur un point si important, et il tirait de cette faute un axiome pour un code de police qu'il faisait à son usage. « Si l'on s'est débarrassé du gendarme, pensait-il, on se sera défait aussi de Violette. Les 5 chevaux morts ont évidemment ramené des environs de Paris dans la forêt les 4 conspirateurs et Michu. » « Michu a-t-il un cheval ? » dit-il au gendarme qui était de la brigade Darcy. « Ah, et un fameux bidet ! » répondit le gendarme. « Un cheval de chasse qui vient des écuries du ci-devant marquis de Simeuse. Quoiqu'il ait bien 15 ans, il n'en est que meilleur. Michu lui fait faire 20 lieues, l'animal a le poil sec comme mon chapeau. Oh, il en a bien soin, il en a refusé de l'argent. » « Comment est son cheval ? » « Une robe brune tirant sur le noir. » Des taches blanches au-dessus des sabots, maigre, tout nerf, comme un cheval arabe. Tu as vu des chevaux arabes ? Je suis revenu d'Égypte il y a 1 an et j'ai monté des chevaux de Mamelouk. On a 11 ans de service dans la cavalerie. Je suis allé sur le Rhin avec le général Steingel, de là en Italie, et j'ai suivi le premier consul en Égypte. Aussi vais-je passer brigadier ? Quand je serai au pavillon de Michu, va donc à l'écurie. Et si tu vis depuis 11 ans avec les chevaux, tu dois savoir reconnaître quand un cheval a couru. Tenez, c'est là que notre brigadier a été jeté par terre, dit le gendarme en montrant l'endroit où le chemin débouchait au rond-point. Tu diras au capitaine de venir me prendre à ce pavillon. Nous nous en irons ensemble à 3. Corentin mit pied à terre et resta pendant quelques instants à observer le terrain. Il examina les 2 ormes qui se trouvaient en face, l'un adossé au mur du parc, l'autre sur le talus du rond-point que coupait le chemin vicinal. Puis il vit, ce que personne n'avait su voir, un bouton d'uniforme dans la poussière du chemin et il le ramassa. En entrant dans le pavillon, il aperçut Violette et Michu attablés dans la cuisine et disputant toujours. Violette se leva, salua Corentin et lui offrit à boire. « Merci, je voudrais voir le brigadier, » dit le jeune homme qui d'un regard devina que Violette était grise depuis plus de 12 heures. « Ma femme le garde en haut, » dit Michu. « Eh bien, brigadier, comment allez-vous ? » dit Corentin qui s'élança dans l'escalier et qui trouva le gendarme, la tête enveloppée d'une compresse, et couché sur le lit de Madame Michu. Le chapeau, le sabre et le fourniment étaient sur une chaise. Marthe, fidèle aux sentiments de la femme et ne sachant pas d'ailleurs la prouesse de son fils, gardait le brigadier en compagnie de sa mère. « On attend Monsieur Varlet, le médecin Darcy, » dit Madame Michu. « Gaucher est allé le chercher. »« Laissez-nous pendant un moment, » dit Corentin, assez surpris de ce spectacle où éclatait l'innocence des 2 femmes. « Comment avez-vous été atteint ? » demanda-t-il en regardant l'uniforme. « À la poitrine, » répondit le brigadier. « Voyons votre buffleterie, » demanda Corentin. Sur la bande jaune bordée de liséré blanc qu'une loi récente avait donnée à la gendarmerie dite nationale, en stipulant les moindres détails de son uniforme, se trouvait une plaque assez semblable à la plaque actuelle des gardes champêtres et où la loi avait enjoint de graver ces singuliers mots « respect aux personnes et aux propriétés ». La corde avait porté nécessairement sur la buffleterie et l'avait vigoureusement mâchurée. Corentin prit l'habit et regarda l'endroit où manquait le bouton trouvé sur le chemin. « À quelle heure vous a-t-on ramassé ? » demanda Corentin. « Mais au petit jour. »« Vous a-t-on monté sur le champ ici ? » dit Corentin en remarquant l'état du lit qui n'était pas défait. « Oui. » « Qui vous y a monté ?» « Les femmes et le petit Michu qui m'a trouvé sans connaissance. »« Bon, ils ne se sont pas couchés, » se dit Corentin. « Le brigadier n'a été atteint ni par un coup de feu ni par un coup de bâton, car son adversaire, pour le frapper, aurait dû se mettre à sa hauteur et se fût trouvé à cheval. Il n'a donc pu être désarmé que par un obstacle opposé à son passage. Une pièce de bois ? Pas possible. Une chaîne de fer, elle aurait laissé des marques. « Qu'avez-vous senti ? » dit-il tout haut au brigadier en venant l'examiner. « J'ai été renversé si brusquement. Vous avez la peau écorchée sous le menton. » « Il me semble, répondit le brigadier, que j'ai eu la figure labourée par une corde. « J'y suis, dit Corentin. On a tendu d'un arbre à l'autre une corde pour vous barrer le passage. « Ça se pourrait bien, dit le brigadier. » Corentin descendit et entra dans la salle. « Eh bien, vieux coquin, finissons-en, disait Michu en parlant à Violette et regardant l'espion. « 120 000 francs du tout, et vous êtes le maître de mes terres. Je me ferai rentier. « Je n'en ai, comme il n'y a qu'un dieu, que 60 000. « Mais puisque je vous offre du terme pour le reste, nous voilà pourtant depuis hier sans pouvoir finir ce marché-là. Des terres de première qualité. »«
Les terres sont bonnes, » répondit Violette.
« Du vin, ma femme, » s'écria Michu. « Voilà la 14e bouteille depuis hier 9 heures. »«
Vous êtes là depuis 9 heures ce matin ?» dit Corentin à Violette.
« Non, faites excuse. Depuis hier au soir, je n'ai pas quitté la place et je n'ai rien gagné. Plus il me fait boire, plus il me surfait ses biens. »«
Dans les marchés, qui hausse le coude fait hausser le prix, » dit Corentin. Une douzaine de bouteilles vides, rangées au bout de la table, attestaient le dire de la vieille. En ce moment, le gendarme fit signe du dehors à Corentin et lui dit à l'oreille sur le pas de la porte « Il n'y a point de cheval à l'écurie. »
« Vous avez envoyé votre petit sur votre cheval à la ville, » dit Corentin en rentrant. « Il ne peut tarder à revenir. »«
Non, monsieur, » dit Marthe, « il est à pied. »«
Eh bien, qu'avez-vous fait de votre cheval ?»«
Je l'ai prêté, » répondit Michu d'un ton sec.
« Venez ici, bon apôtre, » fit Corentin en parlant au régisseur. « J'ai deux mots à vous glisser dans le tuyau de l'oreille. »
Corentin et Michu sortirent. « La carabine que vous chargiez hier à 4 heures devait vous servir à tuer le conseiller d'État. Grévin, le notaire, vous a vu. Mais on ne peut pas vous pincer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'intentions et peu de témoins. Vous avez, je ne sais comment, endormi Violette. Et vous, votre femme, votre petit gars, vous avez passé la nuit dehors pour avertir Mademoiselle de Cinq-Signes de notre arrivée et faire sauver ses cousins que vous avez amenés ici, je ne sais pas encore où. Votre fils ou votre femme ont jeté le brigadier par terre assez spirituellement. Enfin, vous nous avez battus. Vous êtes un fameux luron. Mais tout n'est pas dit, nous n'aurons pas le dernier. Voulez-vous transiger ? Vos maîtres y gagneront.
Venez par ici, nous causerons sans pouvoir être entendus, dit Michu en emmenant l'espion dans le parc jusqu'à l'étang.
Quand Corentin vit la pièce d'eau, il regarda fixement Michu, qui comptait sans doute sur sa force pour jeter cet homme dans 7 pieds de vase sous 3 pieds d'eau. Michu répondit par un regard non moins fixe. Ce fut absolument comme si un boa flasque et froid eût défié un de ces roux et fauves jaguars du Brésil.
« Je n'ai pas soif, » répondit le muscadin qui resta sur le bord de la prairie et mit la main dans sa poche de côté pour y prendre son petit poignard.
« Nous ne pouvons pas nous comprendre, » dit Michu froidement.
« Tenez-vous sage, mon cher, la justice aura l'œil sur vous. »«
Si elle n'y voit pas plus clair que vous, il y a du danger pour tout le monde, » dit le régisseur.
« Vous refusez, » dit Corentin d'un ton expressif.
« J'aimerais mieux avoir 100 fois le cou coupé, si l'on pouvait couper 100 fois le cou à un homme, que de me trouver d'intelligence avec un drôle tel que toi. »
Corentin remonta vivement en voiture après avoir toisé Michu, le pavillon et Courot qui aboyait après lui. Il donna quelques ordres en passant à Troyes et revint à Paris. Toutes les brigades de gendarmerie eurent une consigne et des instructions secrètes. Pendant les mois de décembre, janvier et février, les recherches furent actives et incessantes dans les moindres villages. On écouta dans tous les cabarets. Corentin apprit 3 choses importantes. Un cheval semblable à celui de Michu fut trouvé mort dans les environs de Lagny. Les 5 chevaux enterrés dans la forêt de Nodem avaient été vendus 500 francs chacun par des fermiers et des meuniers à un homme qui, d'après le signalement, devait être Michu. Quand la loi sur les receleurs et les complices de Georges fut rendue, Corentin restreignit sa surveillance à la forêt de Nodem. Puis, quand Moreau, les royalistes et Pichegru furent arrêtés,
on ne vit plus de figures étrangères dans le pays. Michu perdit alors sa place, le notaire Darcy lui apporta la lettre par laquelle le conseiller d'État, devenu sénateur, priait Grévin de recevoir les comptes du régisseur et de le congédier. En 3 jours, Michu se fit donner un quitus en bonne forme et devint libre. Au grand étonnement du pays, il alla vivre à Cinq-Cygnes où Laurence le prit pour fermier de toutes les réserves du château. Le jour de son installation coïncida fatalement avec l'exécution du duc d'Enghien. On apprit dans presque toute la France à la fois l'arrestation, le jugement, la condamnation et la mort du prince, terribles représailles qui précédèrent le procès de Polignac, Rivière et Moreau. En attendant que la ferme destinée à Michu fût construite, le faux Judas se logea dans les communs, au-dessus des écuries, du côté de la fameuse brèche. Michu se procura 2 chevaux, un pour lui et un pour son fils, car tous deux se joignirent à Gothard pour accompagner Mademoiselle de Cinq-Cygnes dans toutes ses promenades qui avaient pour but, comme on le pense, de nourrir les 4 gentilshommes et de veiller à ce qu'ils ne manquassent de rien. François et Gothard, aidés par Courot et par les chiens de la comtesse, éclairaient les alentours de la cachette et s'assuraient qu'il n'y avait personne aux environs. Laurence et Michu apportaient les vivres que Marthe, sa mère et Catherine apprêtaient à l'insu des gens afin de concentrer le secret, car aucun d'eux ne mettait en doute qu'il y eût des espions dans le village. Aussi, par prudence, cette expédition n'eut-elle jamais lieu que 2 fois par semaine et toujours à des heures différentes, tantôt le jour et tantôt la nuit. Ces précautions durèrent autant que le procès Rivière, Polignac et Moreau. Quand le Senatus Consulte, qui appelait à l'Empire la famille Bonaparte et nommait Napoléon empereur, fut soumis à l'acceptation du peuple français, M. d'Auxerre signa sur le registre que vint lui présenter Goulard. Enfin, on apprit que le pape viendrait sacrer Napoléon. Mademoiselle de Cinq-Cygnes ne s'opposa plus dès lors à ce qu'une demande fût adressée par les 2 jeunes d'Auxerre et par ses cousins pour être rayés de la liste des émigrés et reprendre leurs droits de citoyens. Le bonhomme courut aussitôt à Paris et y alla voir le ci-devant marquis de Chargebœuf qui connaissait M. de Talleyrand. Ce ministre, alors en faveur, fit parvenir la pétition à Joséphine et Joséphine la remit à son mari qu'on nommait empereur, majesté, sire, avant de connaître le résultat d'un scrutin populaire. M. de Chargebœuf, M. d'Auxerre et l'abbé Gouget, qui vint aussi à Paris, obtinrent une audience de Talleyrand et ce ministre leur promit son appui. Déjà Napoléon avait fait grâce aux principaux acteurs de la grande conspiration royaliste dirigée contre lui. Mais, quoique les 4 gentilshommes ne fussent que soupçonnés, au sortir d'une séance du Conseil d'État, l'empereur appela dans son cabinet le sénateur Malin, Fouché, Talleyrand, Cambacérès, Lebrun et Dubois, le préfet de police. « Messieurs, dit le futur empereur qui conservait encore son costume de premier consul, nous avons reçu des sieurs de Simeuse et d'Auxerre, officiers de l'armée du prince de Condé, une demande d'être autorisés à rentrer en France. « Ils y sont, dit Fouché. « Comme 1000 autres que je rencontre dans Paris, répondit Talleyrand. « Je crois, répondit Malin, que vous n'avez point rencontré ceux-ci, car ils sont cachés dans la forêt de Nodème et s'y croient chez eux. Il se garda bien de dire au premier consul et à Fouché les paroles auxquelles il avait dû la vie. Mais, en s'appuyant des rapports faits par Corentin, il convainquit le conseil de la participation des 4 gentilshommes au complot de messieurs de Rivière et de Polignac, en leur donnant Michu pour complice. Le préfet de police confirma les assertions du sénateur. Mais comment ce régisseur aurait-il su que la conspiration était découverte au moment où l'empereur, son conseil et moi, nous étions les seuls qui eussent ce secret, demanda le préfet de police. Personne ne fit attention à la remarque de Dubois. S'ils sont cachés dans une forêt et que vous ne les ayez pas trouvés depuis 7 mois, dit l'empereur à Fouché, ils ont bien expié leur tort. Il suffit, dit Malin, effrayé de la perspicacité du préfet de police, que ce soit mes ennemis pour que j'imite la conduite de votre majesté. Je demande donc leur radiation et me constitue leur avocat auprès d'elle. Ils seront moins dangereux pour nous réintégrer qu'émigrer, car ils auront prêté serment aux constitutions de l'Empire et aux lois, dit Fouché, qui regarda fixement Malin. « En quoi menace-t-il, monsieur le sénateur ?» dit Napoléon. Talleyrand s'entretint pendant quelque temps à voix basse avec l'empereur. La radiation et la réintégration de messieurs de Simeuse et d'Auxerre parut alors accordées. « Sire, dit Fouché, vous pourrez encore entendre parler de ces gens-là. » Talleyrand, sur les sollicitations du duc de Grandlieu, venait de donner, au nom de ces messieurs, leur foi de gentilhomme, mot qui exerçait des séductions sur Napoléon, qu'ils n'entreprendraient rien contre l'empereur et faisaient leur soumission sans arrière-pensée. Messieurs d'Auxerre et de Simeuse ne veulent plus porter les armes contre la France après les derniers événements. Ils ont peu de sympathie pour le gouvernement impérial et sont de ces gens que votre majesté devra conquérir. Mais ils se contenteront de vivre sur le sol français en obéissant aux lois, dit le ministre. Puis il mit sous les yeux de l'empereur une lettre qu'il avait reçue et où ses sentiments étaient exprimés. « Ce qui est si franc doit être sincère, » dit l'empereur en regardant Lebrun et Cambacérès. « Avez-vous encore des objections ?» demanda-t-il à Fouché. « Dans l'intérêt de votre majesté, » répondit le futur ministre de la police générale, « je demande à être chargé de transmettre à ces messieurs leur radiation quand elle sera définitivement accordée, » dit-il à haute voix. « Soit, » dit Napoléon, en trouvant une expression soucieuse dans le visage de Fouché. Ce petit conseil fut levé sans que cette affaire parût terminée. Mais il eut pour résultat de mettre dans la mémoire de Napoléon une note douteuse sur les quatre gentilshommes. Monsieur d'Auxerre, qui croyait au succès, avait écrit une lettre où il annonçait cette bonne nouvelle. Les habitants de Cinq-Cygnes ne furent donc pas étonnés de voir, quelques jours après, Goulard qui vint dire à Madame d'Auxerre et à Laurence qu'elles eussent à envoyer les quatre gentilshommes à Troyes, où le préfet leur remettrait l'arrêté qui les réintégrait dans tous leurs droits après leur prestation de serment et leur adhésion aux lois de l'Empire. Laurence répondit au maire qu'elle ferait avertir ses cousins et messieurs d'Auxerre. « Ils ne sont donc pas ici ?» dit Goulard. Madame d'Auxerre regardait avec anxiété la jeune fille, qui sortit en laissant le maire pour aller consulter Michu. Michu ne vit aucun inconvénient à délivrer immédiatement les émigrés. Laurence, Michu, son fils et Gothard partirent donc à cheval pour la forêt en emmenant un cheval de plus, car la comtesse devait accompagner les quatre gentilshommes à Troyes et revenir avec eux. Tous les gens qui apprirent cette bonne nouvelle s'attroupèrent sur la pelouse pour voir partir la joyeuse cavalcade. Les quatre jeunes gens sortirent de leur cachette, montèrent à cheval sans être vus et prirent la route de Troyes accompagnés de Mademoiselle de Cinq-Cygnes. Michu, aidé par son fils et Gothard, referma l'entrée de la cave et tous trois revinrent à pied. En route, Michu se souvint d'avoir laissé dans le caveau les couverts et le gobelet d'argent qui servaient à ses maîtres, il y retourna seul. En arrivant sur le bord de la mare, il entendit des voix dans la cave et alla directement vers l'entrée à travers les broussailles. « Vous venez sans doute chercher votre argenterie, » lui dit Peyrade en souriant et lui montrant son gros nez rouge dans le feuillage. Sans savoir pourquoi, car enfin les jeunes gens étaient sauvés, Michu sentit à toutes ses articulations une douleur, tant fut vive chez lui cette espèce d'appréhension vague, indéfinissable, que cause un malheur à venir. Néanmoins, il s'avança et trouva Corentin sur l'escalier, un rat de cave à la main. « Nous ne sommes pas méchants, » dit-il à Michu. « Nous aurions pu pincer vos ci-devant depuis une semaine, mais nous les savions radier. Vous êtes un rude gaillard, et vous nous avez donné trop de mal pour que nous ne satisfassions pas au moins notre curiosité. » « Je donnerais bien quelque chose, » s'écria Michu, « pour savoir comment et par qui nous avons été vendus. » « Si cela vous intrigue beaucoup, mon petit, » dit en souriant Peyrade, « regardez les fers de vos chevaux, et vous verrez que vous vous êtes trahi vous-même. »« Sans rancune, » dit Corentin en faisant signe au capitaine de gendarmerie de venir avec les chevaux. « Ce misérable ouvrier parisien qui ferait si bien les chevaux à l'anglaise et qui a quitté Cinq-Cygnes était un des leurs, » s'écria Michu. « Il leur a suffi de faire reconnaître et suivre sur le terrain quand il a fait humide, » par un des leurs déguisé en fagoteur, en braconnier, les pas de nos chevaux ferrés avec quelques crampons. Nous sommes quittes. Michu se consola bientôt en pensant que la découverte de cette cachette était maintenant sans danger, puisque les gentilshommes redevenaient français et avaient recouvré leur liberté. Cependant, il avait raison dans tous ses pressentiments. La police et les jésuites ont la vertu de ne jamais abandonner ni leurs ennemis ni leurs amis.